la position du bateau, le site est correct, mouillage de l'embarcation c'est fait, pavillon marque de manœuvre restreinte, l'échelle est en place.
Dans ce cordon ombilical, de l'air, de l'électricité, le scaphandrier travaille au fond de l'eau, dirigé et surveillé depuis la surface.
En immersion.
Il faut donc répéter les gestes encore et encore. Assimiler les procédures de décompression. Le but, créer des automatismes.
Plonger dans l'actualité de la Lozère.
Il est 7h du matin, nous sommes au camping de Chanac et j'ai rendez-vous pour les rencontres internationales de l'image souterraine. Ça se passe du 1er mai au 6 mai. 54 professionnels de la photographie souterraine se rencontrent et vont aller voir et photographier évidemment les plus belles cavités de Lozère, mais aussi dans le Gard et dans l'Aveyron.
Bonjour,
je cherche Rémi Flamand.
Il n'est pas arrivé encore.
Il n'est pas encore arrivé, d'accord.
Dans la salle polyvalente de Chanac, tout le monde se réveille petit à petit et voilà Rémi, l'organisateur, qui vient tout juste de sortir du lit.
Est-ce qu'on peut un peu parler de ces rencontres? Elles ont lieu depuis combien de temps?
Les photographes souterrains se sont toujours rencontrés, retrouvés lors de meetings. Le SPM, c'est un nouvel événement. Il a démarré en 2016 et il aurait dû avoir lieu en 2020 en France, annulé pour cause de crise sanitaire. Et aujourd'hui, il voit le jour à Chanac, en Lozère, cette année 2022. Je suis un grand amoureux du département de la Lozère. C'est un département que je connais très bien, où je me suis fait avec le temps des amis spéléo, des amis qui pouvaient aussi me soutenir dans cette démarche. Le département de la Lozère était idéalement placé d'un point de vue beauté des cavités, accessibilité. C'est aussi un département que je maîtrise très bien d'un point de vue aussi infrastructure routière. Donc il faut voir, quand on organise un événement de cette ampleur, il faut vraiment avoir une vision globale. Les cavités, pour les photographes, elles nécessitent d'une certaine façon certaines spécificités. Il faut privilégier peu de marge d'approche. Donc là, nous avons fait une sélection d'une grosse dizaine, une quinzaine de cavités pour accueillir ce public venant de plusieurs pays.
Ces rencontres, ce n'est pas seulement aller sur le terrain, c'est aussi partager le travail de chacun. Et la salle polyvalente est remplie de photos XXL sur les murs.
C'est le lieu central de l'événement où on a donc exposition photo. Chaque participant a une série de photos, donc on a 14 participants. On a plutôt cherché à faire des tirages assez qualitatifs et de grand format. Donc par la place que l'on avait à disposition, chaque photographe a 3 tirages. C'est des photos qui représentent leur pays et c'est leur travail avec leur équipe ou non.
Chacun a sa propre vision du monde souterrain et donc du coup les photos forcément. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de chaque spécificité qu'on retrouve dans ces photos?
Déjà il va y avoir la technique. La technique d'éclairage, parce que sous terre, il n'y a pas de lumière, pas de lumière, pas de photo. Donc il va falloir vraiment amener son éclairage et le gérer. Et donc du coup, on va avoir deux grands mondes. On va avoir les flashs électroniques qui amènent une lumière très puissante, mais très, très brève, dans l'instant. Et la lumière continue, on va avoir la lumière... où on va générer des temps de pause un peu plus importants. Et donc du coup, ces deux grandes techniques vont faire déjà des photos très différentes. Après, il va y avoir les courants artistiques qui sont aussi liés à des pays. Par exemple, si on prend des photographes anglais, ils ont plutôt tendance à énormément éclairer en contre-jour et donc à générer des photos plutôt avec des ambiances monochromes. Contrairement aux Espagnols, qui eux vont plutôt chercher à éclairer de manière plus frontale et donc du coup de générer un éclairage plus constant et où on va tout montrer. Voilà.
Vous partez avec votre équipement complet.
Sur une table au fond de la salle, caméra, trépied, lumière, tout le monde apporte son matériel et avant de partir, Rémi et son équipe vérifient une dernière fois.
La mise au point, elle est sur l'écran, tu peux la déplacer avec le...
Ouais.
Tu le mets sur ce qui semble être intéressant, c'est instantané, hein, du moment où tu fais la mise au point, ouais. Tu vois, si je la mets là, elle est déjà faite, quoi. Okay. Par contre, en milieu souterrain, si tu la fais sur une lampe très puissante, ça peut avoir tendance à chercher.
En attendant que toutes les équipes soient prêtes à partir, au premier étage de la salle polyvalente, je rejoins Michel qui règle quelques détails pour l'ouverture au public l'après-midi.
Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 71 ans. Je fais de la spéléo depuis plus de 53 ans et j'ai toujours fait des photos. J'ai toujours été un amateur de photos. Mon premier club photo, c'était en 1968.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous aimez tant dans cette discipline ?
Au départ, comme beaucoup de photographes spéléo, on veut décrire un monde qui est totalement ignoré du grand public. Et les mots ne suffisent pas. Donc il faut une image. Et on s'aperçoit, quand on mûrit, quand on progresse un peu dans la technique photo, qu'il y a autant de façons de traiter un sujet photographique que de spéléo et que de photographe. C'est une façon aussi de montrer quelque chose qui serait difficile d'expliquer, et puis des choses où on ne peut pas emmener n'importe quelle personne. Et physiquement, c'est compliqué, même si en tant qu'accompagnateur et puis passionné de la chose, j'ai eu l'occasion d'emmener des habitants de la commune de Malaval sortir 4 pattes dans la rivière et dehors il fait moins 2 en disant « Ah, on n'a pas d'habits pour se changer ». Ce fut un peu dur, mais ils ont quand même beaucoup apprécié.
Vous êtes toujours émerveillé après 50 ans de spéléologie ?
Oui, parce qu'il n'y a pas de grotte qui se ressemble. Et ce qui est totalement fou, et on le voit, par exemple ceux qui vont à la grotte de Castelbouc 4, qui ne connaissent pas du tout, ils disent « Mais dans quelle galère on m'a engagé quoi,
je fais... Bah, ça fait plaisir parce que je vais y aller justement. Là.
Je fais 40 mètres, 50 mètres de 4 pattes, il faut se baisser, c'est humide, on peut se cogner la tête ou glisser. Mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis, au bout de... Suivant le groupe, l'agilité de tout le monde, etc., entre 20 et 20 minutes et une petite demi-heure, on est dans une salle énorme. Et là, on dit, ah oui, d'accord. Comment pouvait-on imaginer qu'en entrant dans une petite entrée comme ça, on allait trouver des volumes où, grands comme un hall de gare ?
Il est désormais 9h passées, le soleil est déjà bien haut dans le ciel. Il est l'heure d'aller chercher le matériel avant de rejoindre l'équipe.
C'est de combien, pointure ?
39.
Rémi me prête une combinaison, des bottes et un casque. Nous sommes prêts pour partir à Castelbouc, à 35 minutes de Chanac.
Leur endroit précis pour manger dans le
festival. T'as une couverture de survie ou pas avec toi ?
Oui.
Bah, tu manges n'importe où, à un endroit où il y a assez de place, tu vois. Ça peut être. Tu sais, là où on a
d'accord.
Mis le bidim avec le gravier. Bah, tu mets une petite couverture
oui.
de survie et puis tu
oui,
manges
oui,
tranquille
bien.
Sur les bâches et comme ça, ah,
oui.
Il n'y a pas de miettes et puis au moins c'est propre. Ouais, en plus, tu vois, j'ai vu que certains ont fait tomber de la bouffe il doit y avoir au moins 3 semaines, un mois. Et il y a des endroits, il y a de la moisissure qui a commencé à apparaître. Il faudra le traiter, ça, dans
merde.
Le futur. Ça va, ça reste des petites choses, mais bon, ça peut partir, quoi.
Okay.
Bah, bonne sortie, du coup, profite bien. Toi, t'es avec Sergio aujourd'hui. Allez, profite bien.
Allez, ouais, ciao.
À ce soir. D'un point de vue spéléo, les pratiquants sont quand même très, très précautionneux. Après, arrive une certaine forme de... Enfin, il y a plusieurs types de spéléo. Il y a des spéléos qui pratiquent la spéléo de découverte. Eux, ils ne font qu'un passage. Ils font un aller et un retour. Et ça s'arrête là. La problématique du photographe spéléo, c'est qu'il reste sur place longtemps et il fait énormément d'allers-retours. Donc, on se retrouve avec des piétinements très, très importants. Et le photographe spéléo est d'une certaine façon un problème pour le milieu naturel souterrain. Et donc on doit prendre en compte des mesures pour limiter la dégradation par l'avenue des photographes.
D'accord.
Par exemple, pour la rivière souterraine de Malaval, il y a un peu plus d'un mois, avec une équipe de bénévoles de 5 départements, principalement des Lozériens, des spéléos, des départements limitrophes, on a refait le balisage de la rivière souterraine de Malaval afin de vraiment pouvoir matérialiser là où les spéléos peuvent marcher ou non. C'est-à-dire qu'on plante des petits piquets en fibre de verre et on rajoute une petite cordelette suffisamment discrète pour pas nuire à l'image et en même temps pour guider les spéléos afin que on puisse vraiment matérialiser là où on peut passer et là où il ne faut surtout pas sortir.
Arrivé sur les lieux, en flanc de falaise se trouve un vieux village avec quelques maisons.
Cool. Allez, super, on est arrivé. Dans l'idée, c'est que là, tout de suite, tu mets ta combinaison.
Ok.
Si tu veux te changer, tu peux te mettre dans le fourgon si t'as... Enfin,
je peux rester comme ça, j'ai juste à mettre la par-dessus,
ouais,
non
bon.
Ok, ça marche. Alors, il faut que je mette le casque, la combinaison...
Juste à côté de nous, une autre équipe est en train de se préparer, des Italiens.
Un minuto, se puoi spiegare come mai siamo qui e qual è il nostro lavoro, cosa siamo appunto venuti a fare nella grotta. So he already knew the caves. I mean some of them they are famous, like Castle Book number 4, the one with dinosaur footprints. It's very cool. But he had never been. So yeah, I mean it is the first time he has the occasion to visit this cave. Very excited, first of all, I'd say. Yeah, it is really a pleasure to be here with so many people, exchange new ideas and visit these caves. Yeah, we are very excited and every day we look forward for the next cave. It's something very, very nice, yeah.
L'équipe italienne part de son côté et nous rejoignons les photographes roumains pour l'expédition sous terre.
Alors là, on va sur Castle Book numéro 4. Donc c'est la grotte horizontale où on va pouvoir observer les empreintes de sauropodes, les empreintes de dinosaures qui sont au plafond, à 18 mètres, à 18 mètres du sol. L'entrée, elle est en falaise. C'est un petit passage étroit où on a, on va dire, une rupture entre deux mondes. On a le monde extérieur avec la végétation et très rapidement et de façon très brutale, on rentre sous terre. C'est une petite désescalade, c'est un peu glissant avec le passage, les calcaires s'usent, se patinent et on a des toboggans, c'est très ludique avec les enfants. C'est vraiment la cavité à découvrir en famille. D'un point de vue photographique, elle est très intéressante pour ses volumes. Des galeries qui sont très grandes, très longues, très hautes. Il y a une salle qui s'appelle la salle de minuit, un peu comme si avec nos lampes frontales on n'arrivait pas à percevoir ses dimensions tellement qu'elle est grande. Et la finalité de la cavité, c'est un siphon, un siphon avec des eaux turquoises et qui sont de toute beauté.
On s'enfonce dans une forêt clairsemée avant de se retrouver face à un trou, l'entrée de la grotte.
Bon, bienvenue à Castle Book, number 4.
Merci beaucoup.
Dans l'organisation, je ne sais pas, vous avez combien de sacs? Chacun a son sac?
Oui.
One, two, three bags?
Mm-hmm.
Ok. La cavité est relativement étroite au début parce qu'elle a connu une grande phase de désobstruction. Il va falloir s'aider pour faire passer les sacs dans les parties basses. Si on y va seul avec son sac, donc il vaut mieux mettre une personne au milieu qui n'a pas de sac juste pour se faire passer les sacs, ok ?
Combien de temps il y a au début ?
Là, on va mettre une demi-heure.
Demi-heure.
Une demi-heure. D'accord. Après, on arrive dans les grands volumes. Tout de suite, c'est la salle avec les empreintes de dinosaures.
Mmh.
Après, les très gros volumes, la salle de minuit, par exemple, c'est immense. Et il vous faudrait beaucoup de temps pour la photographier. C'est possible. Mais je pense que pour vous, photographier les empreintes de dinosaures est quelque chose de vraiment exceptionnel. Parce que pour le moment, c'est unique au monde. Et c'est en Lozère. C'est parti ? Allez, on est là pour aider aussi. Philippe, t'as quoi, toi ?
Une fois rentré, il ne faut surtout pas perdre de vue le guide.
Il est où, Cyprien ? Bon, Cyprien est loin derrière. On va en profiter pour passer devant. Ici, le seul danger qu'il peut y avoir, c'est le risque de chute. Ça glisse, il y a beaucoup de passages, c'est quand même très patiné. Donc, du coup, il faut vraiment... faut pas hésiter à poser les fesses pour éviter la chute. Et on descend tranquillement, on se laisse descendre en toboggan. Allez, on vous attend un petit peu. Passe au-dessus et en dessous.
Ça passe les deux ?
Non, il faut d'abord passer au-dessus du caillou et après c'est en dessous. Le caillou d'après.
Le caillou d'après, il y en a quand même beaucoup.
Donc là, on est dans un environnement hyper fracturé. On est dans une faille en fait et la roche est carrément... plié
et on est au milieu de gros blocs. Alors c'est parfaitement stable. Hein, c'est... Et des spéléos ont ouvert le passage, ce qu'on appelle une désobstruction. Donc ils ont vraiment creusé un passage jusqu'à qu'il débouche dans quelque chose de grand. Et c'est ce qu'on va voir après. Sauf que quand ils creusaient, ils ne savaient pas du tout combien de temps ça allait durer. Et ça a été un travail titanesque. Parce que quand on se rend compte de la longueur du cheminement, et puis surtout comprendre où passer, parce qu'on aurait pu attaquer, enfin, ils ont attaqué le chantier un peu partout. Donc ils ont eu une chance de pouvoir y arriver. Et surtout, ils ont eu énormément de persévérance. Parce que c'est le genre de travail où on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Il y a des désopes, ils ont mis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avant d'arriver dans un réseau. Donc c'est quelque chose qui est toujours mérité, une désobstruction. C'est jamais un coup de chance. Là, on est dans une galerie où c'est comme si on était sous une table à peu près en permanence. Donc voilà, c'est pas très haut, on est un mètre, un peu moins d'un mètre. Donc on ne peut pas se mettre debout. Et casser du caillou à plat ventre, c'est jamais évident. Puis après, il faut l'évacuer en plus.
Ça va ?
Ça va.
Comment elle va, cette équipe vidéo ?
Elle va bien.
Bon, super.
On reprend notre souffle et nous repartons. Un air frais sur nos joues nous indique l'arrivée dans la grande salle, celle où se trouvent des empreintes de dinosaures. Tout est noir, seules nos lampes frontales éclairent les parois.
D'ailleurs, ce petit rocher, je fais souvent ça avec les débutants. Parce que comme ça, quand ils arrivent, c'est eux qui éclairent leur découverte. Mmh. S'ils arrivent que c'est déjà éclairé, il n'y a pas l'effet de surprise. Et là, le fait... que tu dis que c'est toi qui débouche avec ton propre éclairage dans cet univers. C'est toi qui fais vraiment cette découverte avec ta lampe frontale. Et ce qui me permet moi aussi de voir ce que tu vois, parce que étant un éclairage frontal, quand tu tournes la tête à gauche, clairement je sais exactement ce que tu vois et je peux très bien m'imaginer la sensation que ça peut faire quand on arrive dans un volume aussi important pour la première fois. Donc c'est assez incroyable. Voilà, fini les étroitures pour vous. Ça va, un peu chaud ? Avec le kit, c'est difficile. Il est lourd et il est rigide. Et nos amis roumains, ils sont loin derrière ?
Ouais.
Ouais. Ils sont chargés, eux. Mais ils vont pas être déçus.
C'est là les empreintes de
dinosaures ? Ah bah tiens, bonne question. Est-ce qu'elles sont là, les empreintes de dinosaures ?
Monsieur Jacquet.
Allez, celui qui les trouve a le droit à un sirop de citron ce soir en rentrant. Comment on voit les empreintes de dinosaures, tiens ?
Est-ce qu'elles sont en dessous ou comme ça ?
Ah, elles sont en positive, ouais. Donc pour les trouver, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut mettre le casque, on utilise l'éclairage et on génère quoi ? Un contre-jour ? Et le contre-jour, ça permet de créer quoi ? Des ombres ?
Ouais.
Voilà, et les ombres, elles permettent de découvrir les empreintes.
Les empreintes.
Allez, vous avez 4 heures.
En marchant vers le fond de la grotte, on s'arrête quelques secondes. Les gouttes d'eau tombant du plafond brisent le silence.
Donc là, on est dans la galerie du tunnel. Il faut s'imaginer une galerie qui est relativement longue, qui fait à peu près 20 mètres de large, 18 mètres de haut. Nos éclairages, même puissants, peinent à éclairer le bout. Et on a des plafonds parfaitement rectilignes, parce qu'on est sur des strates. Des strates qui se sont effondrées et quand la strate tombe, elle laisse apparaître celle du dessus. Et vu que c'est les anciens fonds marins, on a vraiment une parallélité des strates et des plafonds qui sont parfaitement rectilignes. C'est très très impressionnant d'avoir des plafonds aussi lisses et de cette grande taille.
On s'assoit au sol, dos contre le mur lisse, il suffit de lever la tête.
Philippe, tu nous éclaires ? Voilà, c'est parfait. On a 3 pistes. Elles sont parallèles et on a des empreintes d'un dinosaure adulte et d'un plus petit. Donc la plus grosse empreinte, elle fait 1,20 m de diamètre. Et en fait, c'est assez complexe à comprendre, la structure, parce qu'il marche dans ses pas. C'est-à-dire que si on regarde une empreinte, en fait, il y en a deux en réalité. Il y a la patte avant et la patte arrière. Et elles se confondent légèrement. Et donc du coup on a une espèce de sabot, c'est pas comme ce que l'on peut voir comme à Brahmabio ou dans d'autres cavités où on a des empreintes à 3 doigts, les tridactyles. Là on a vraiment quelque chose de relativement rond et c'est pour ça que c'est resté pas forcément, ça n'a pas été intercepté par les spéléos qui venaient ici parce qu'on a l'habitude de voir une empreinte d'oiseau et là le fait de voir quelque chose de rond et surtout d'un diamètre aussi important, on est passé à côté. Jusqu'à qu'un jeune paléontologue de Lozère, Jean-David Moreau et de par ses connaissances a pu détecter ces empreintes.
C'était quand qu'il les a détectées ?
Donc ça a été en 2018 et ça a été publié en 2020. J'ai eu la chance de pouvoir faire la campagne photographique de cette étude scientifique et donc du coup d'illustrer cette découverte et de pouvoir la partager au monde entier parce qu'elle a été largement publiée car grâce à cette découverte, d'autres spéléos ont pris le relais et trouvent à leur tour des empreintes de dinosaures. Et ce qu'on pensait quelque chose de rare est en fait clairement une... on en a dans plein de cavités. Et ça y est, là, ça sort de partout. On trouve des empreintes un peu partout en Lozère, donc c'est extraordinaire de savoir qu'il y a 168 millions d'années, un animal un vertébré de 50 mètres de long et de 30 tonnes a marché là où on se situe aujourd'hui. Et c'est parfaitement conservé, car dans une cavité, on est sur un milieu clos, sans interaction avec l'extérieur, et qui nous permettent de conserver parfaitement ce patrimoine.
L'équipe roumaine de Christian arrive enfin sur les lieux et découvre à leur tour les empreintes.
Look the roof.
Ai sam bapula. Ai sam futuna. Wow.
Elles sont très visibles. À vous de jouer. Maintenant, il va falloir sortir les trépieds, les lumières, les appareils photo.
Pas de trépied, un flash, et c'est fini. C'est incroyable d'être ici et c'est un vrai honneur de découvrir ensemble toutes les grottes, mais ici le vestige d'une vieilleté énorme. C'est incroyable, c'est difficile de trouver des mots pour ça, mais j'espère qu'on va trouver l'inspiration pour prendre les photos.
Ça fait combien de temps, vous, que vous travaillez en tant que photographe ?
Depuis 14.
14 ans ?
Et maintenant j'ai 52.
Sans plus attendre, Christian dégaine son appareil photo.
Travaillons ensemble. Chaque photo, chaque de notre photo est réalisée par deux personne. C'est Cosmin qui est le maître de la lumière et c'est moi qui travaille avec l'appareil photographique. Mais chaque de nous a son rôle dans le photo. Et nous avons notre ami Helmut qui est l'assistant et qui est le personnage. Et, c'est une vraie équipe. Maintenant, on ne veut pas utiliser beaucoup de la lumière. On veut utiliser une lumière avec une lumière délicate. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais Cosmin, lui, c'est le maître de la lumière. On va voir. Stinge, Helmut. Cosma, ok, așa, umbre sunt, dar...
Toutes les lumières sont maintenant éteintes. L'équipe restera plus de 8 heures dans la grotte de Castelbouc pour immortaliser ses empreintes du Jurassique.